BFM Business. Objectif, raison d'être. Cyril Ariel.
Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif Raison d'être, nous allons creuser les enjeux durables dans le café. Nous recevons alors sur ce plateau le directeur général de Nespresso en France qui se fera challenger par Anne Caron qui a été élue la meilleure torréfactrice en 2017. Puis enfin nous aurons le débrief de la semaine par la directrice générale de Planète Urgence et puis en fin d'émission les questions des internautes. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet, ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.
Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir sur ce plateau pour la première fois le directeur général France de Nespresso, Guillaume Chéneau. Bonjour et bienvenue Guillaume.
Bonjour.
En face de vous, nous avons la meilleure torréfactrice de France en 2017, Anne Caron. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Alors je vais un peu recontextualiser vos marques. On le rappelle déjà tout d'abord, le café c'est quand même la deuxième boisson la plus consommée en France après l'eau. Et à peu près 2 millions de tasses de café sont bues chaque année par minute, c'est ça ? Par minute ?
Oui.
À peu près, donc c'est juste énorme. Nespresso, vous avez été fondé en 1986. Aujourd'hui, vous êtes présent dans 80 marchés. La France représente votre deuxième marché. Vous avez notamment 60 caféiculteurs et vous avez 18 pays d'origine. Anne Caron, vous avez été fondée en 1974, 4 pays, 4 planteurs, 150 collaborateurs et vous servez à peu près 1000 cafés par jour et vous êtes en cours de certification Bicorp. Alors c'est intéressant parce que Nespresso, depuis avril 2022, vous êtes certifié Bicorp. Alors de manière très concrète, Guillaume Chéneau, maintenant que vous avez cette certification, comment aller plus loin aujourd'hui ?
Alors Bicorp, c'est déjà quelque chose pour lequel nous sommes très très fiers, vous l'avez dit, c'est un effort qui a pris plus de 3 ans à être atteint. Ça démontre finalement les efforts qui ont été faits par Nespresso depuis plus de 20 ans dans l'aspect durabilité. Comment aller plus loin ? C'est un vrai challenge, bien entendu, parce que la raison pour laquelle nous avons choisi Bicorp, parce que c'est compliqué, mais c'est aussi ce qu'on appelle un bench finalement, une base de départ, et savoir comment est-ce qu'on peut continuer d'évoluer d'une manière positive. Alors là, il y a plusieurs angles, on va dire. Bien entendu, la décarbonisation en fait partie, pour s'assurer que, d'un point de vue certification, nous continuons de gagner des points. On a été certifié avec une base de 82 points et notre ambition...
82 sur 200.
Sur 200.
On peut encore faire mieux.
Mais effectivement, mais c'est vrai que ça paraît faible.
C'est dur.
Mais c'est extrêmement compliqué. Il y a 150 000 entreprises qui demandent d'être Bicorp et il y en a aujourd'hui
4 000,
voilà, qui arrivent. Donc ces 80 points sont extrêmement difficiles à avoir.
On va décortiquer votre feuille de route RSE dans cette émission. Et vous, Anne Caron, quelle est la raison d'être effectivement de votre marque éponyme ?
La raison d'être de notre marque, c'est de devenir le moteur de la révolution verte du café.
Et comment marchent vos cafés, vos valeurs, votre éthique ?
En fait, je suis dans le café depuis plus de 20 ans.
1974.
Le café, c'est une passion. Et bien sûr, au travers de ma démarche, j'ai accompagné les cafés pour accompagner une démarche vertueuse depuis le producteur, depuis la cerise de café jusqu'à la tasse.
Alors, de manière très concrète, on rentre dans le vif du sujet. Vous, chez Nespresso, on va dire, on vous a déjà reçu hein, à peu près il y a 18 mois. Vous parlez beaucoup de recyclage d'aluminium. Forcément, c'est là-dedans que vous faites votre business avec vos capsules. Et vous misez sur le recyclage, notamment avec... Vous avez misé sur des machines à courant de Foucault. Vous misez également sur les points de collecte. Comment ça se passe aujourd'hui, effectivement, le bilan des campagnes de collecte ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de Nespresso, tout le monde vous pointe du doigt, effectivement, sur les capsules. Qu'est-ce que vous aimeriez répondre ? Parce que vous choisissez ça. Et vous pouvez du coup parler de cette innovation qui arrive sur le marché très prochainement.
Oui, alors il y a deux points. Déjà, pourquoi la capsule en aluminium déjà ? C'est le choix qui a été fait il y a en 1986 pour créer une consommation précision. C'est-à-dire que... il y a certaines idées reçues sur la manière de consommer le café. La capsule en aluminium recyclée, effectivement, c'est un point qui permet de concevoir et de consommer le café d'une manière très sustainable. C'est 24% d'impact carbone en moins qu'une machine broyeur à grains, par exemple. Parce qu'on utilise uniquement la bonne dose de café, la bonne dose d'eau et la bonne dose d'électricité pour consommer la machine.
Donc vous dites, Guillaume Chéneau, vous dites que par exemple, par rapport à une machine à grains, ouais, vous polluez moins.
Absolument, absolument. Un impact carbone carbone, c'est 24% de moins sur une tasse de café. Et ça fait partie des idées reçues. C'est pas un espresso qui le dit, ce sont des études externes faites par Qantis qui nous permettent d'affirmer ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'effectivement, il faut bien entendu pas s'éloigner du problème du recyclage et de la circularité. On a l'ambition d'accélérer ce recyclage. Aujourd'hui, 90% des Français ont accès de manière directe ou indirecte à un recyclage. Donc, soit par des points de collecte, soit dans la poubelle assez...
Et quid des 80 pays? Parce que vous êtes présents sur 80 marchés. Comment on fait des campagnes de recyclage? Parce qu'en France, alors, on va dire qu'on est peut-être des plus ou moins bons élèves, mais dans vos autres 79 autres pays?
Alors, je ne vais pas pouvoir parler pour tous les pays, mais d'une manière générale... d'une manière générale, c'est un effort constant. J'ai fait ma carrière dans plusieurs pays chez Nespresso. Je peux vous garantir que c'est vraiment le focus principal.
Au Brésil, par exemple?
Alors, au Brésil, ça ne fait pas partie de mes pays. Mais
Colombie,
par contre,
alors en Colombie?
Non, alors non plus. Mais je peux vous parler de la Suède, je peux vous parler du UK. Au UK, on recycle.
C'est moins exotique.
Plus de 50% des capsules aluminium au UK sont recyclées grâce aux efforts faits par Nespresso, par exemple.
Anne Caron, on dit qu'ici, le café en grains reste plus polluant. Alors,
à 99% en grains. Et j'ai fait quelques capsules.
Mais vous voulez l'arrêter, la capsule, alors?
Oui, puisque il y a la capsule, effectivement. Et on ne faut pas non plus se focaliser que sur le déchet de la capsule. Donc, c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, 75% des capsules ne sont pas revalorisées. Et je sais que Nespresso fait énormément d'efforts pour toucher le consommateur pour permettre d'augmenter ce taux de revalorisation. Mais la capsule, la problématique et le sens global, c'est l'impact carbone qu'elle crée, en fait, quand on voit le schéma global de fabrication de la capsule. Donc, je préfère le café grain, bien sûr, et le broyeur automatique, mais ça dépend, parce qu'on parlait d'impact du broyeur automatique, et vous parliez de la quantité de café qu'on met, mais cette quantité de café, elle peut se régler, sachant que pour faire un espresso, un véritable espresso, il faut 7 grammes de café.
Alors, vous en pensez quoi, Guillaume Prénaud?
Écoutez, c'est un bon point. L'étude est liée sur une tasse de café expresso, donc je pense qu'on pourra partager nos sources et nos informations. D'une manière générale, je pense que ce soit tous les caféiculteurs et tous les torréfacteurs aujourd'hui ont la même ambition, hein, finalement, c'est de protéger cette filière du café, s'assurer qu'elle ait le moins d'impact possible et surtout protéger, bien entendu, non seulement les torréfacteurs et les entreprises business, mais aussi, effectivement, les caféiculteurs. Parce que l'un des enjeux, je pense, de part et d'autre, c'est effectivement d'essayer de limiter les risques. Et on sait que l'impact carbone aujourd'hui et tout le réchauffement climatique a un impact sur les cultures café dans le monde. Et on sait que jusqu'à 50% des terres de café aujourd'hui ne seront peut-être plus disponibles dans 2050.
On va en venir avec les sols vivants, avec le bio,
voilà,
etc. Mais j'aimerais poser les questions qui reviennent sans doute, et ça vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Quid aujourd'hui du café en grains? Quid de vos capsules compostables? Ça sort. Donc vous êtes vraiment en réflexion chez Nespresso là-dessus, oui, sur ce déchet de la capsule?
Absolument. Alors il y a deux manières. La capsule qu'on a compostable à la maison, et c'est important, hein, compostable à la maison, c'est... Donc on a lancé ça...
En combien de temps?
Alors, le temps, ça dépend du système de compost. C'est extrêmement variable en fonction des types de compost. Ça prend généralement plusieurs mois. Mais malgré tout, l'idée, c'est de donner un choix à nos clients. Les gens pourront faire le choix à partir du printemps, au moment où nous lançons notre capsule compostable, d'avoir effectivement une capsule compostable à la maison ou d'utiliser l'aluminium. Moi, par exemple, à Paris, j'ai pas accès à un système de compost à la maison et j'ai pas accès.
Vous, c'est vous ramenez chez Nespresso, faites comment?
Non, je pense que moi, ce que je fais aujourd'hui, je la mets dans le bac jaune. Donc à Paris, si vous êtes à Paris, vous avez la possibilité de recycler votre capsule en aluminium avec un simple geste de la mettre dans le bac jaune tous les jours.
Est-ce qu'on pense à la capsule rechargeable chez Nespresso ou pas du tout? Parce que ça casserait votre business model, parce que vous devriez passer au café en grains.
Ah non, il y a un élément qui est vraiment très important sur le rechargeable, c'est que elles sont pas finalement airtight. J'ai du problème un peu avec le français, mais elles sont pas sous univers, elles vont être oxydées, parce que l'idée d'une capsule Nespresso, c'est qu'elle ne soit pas oxydée, donc dans un environnement sans oxygène. Donc si vous faites votre capsule toute seule à la maison, vous allez avoir de l'oxygène, votre café va être oxydé, n'aura pas la qualité qui se comptait.
Est-ce que vous avez des questions, Anne Caron, là-dessus?
Oui, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, la capsule home compostable, je trouve que c'est une technologie qui est passionnante et c'est un vrai enjeu, réussir à associer les deux, c'est-à-dire à la fois préserver le café, comme vous l'avez dit, qu'il ne s'oxyde pas, garder la technologie de la capsule Nespresso et obtenir un bon café. Je trouve que c'est un enjeu qui est passionnant. Moi, j'ai une petite question, parce que vous avez beaucoup communiqué sur la revalorisation de l'aluminium et notamment, vous avez dit faire des vélos avec des capsules d'aluminium. Je trouve ça passionnant. Combien vous en avez fait?
Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, pour être très honnête, mais j'étais au tout départ du projet, puisque j'ai eu une partie de ma carrière en Suède, et ces vélos, Vélosophie, viennent effectivement de Suède. Donc, ce sont des vélos qui sont faits avec une partie de capsules recyclées, bien entendu.
Toujours en construction, ou c'était uniquement dans un pays pilote ?
Alors, c'était dans un pays pilote, mais ils ont été commercialisés dans la totalité des pays où il y a la présence de Nespresso. Donc, c'est vraiment...
Dans les 80 pays ?
Alors, non, peut-être pas, mais dans une très grande partie. Après, l'idée, ce n'était pas de faire un business dans le vélo, comme on a fait des chaussures aussi en collaboration avec Zeta, avec des semelles à base de café. C'est vraiment de démontrer un maximum auprès de nos clients, de consommateurs, ce qu'on peut faire avec du marc de café, de sensibiliser les acteurs du café à cette circularité finalement.
Alors moi j'ai une question pour vous également chez Nespresso. Vous êtes une grosse entreprise et vous avez le pouvoir, la puissance d'avoir des influenceurs qui ont une certaine notoriété, ouais. Georges Clounet, Jean Dujardin, Chiara Ferragni, notamment en Italie, ou encore Camille Cotin. On les voit, hein, voilà, ils jouent le jeu, ils sont dans vos campagnes, ils publient dans leurs stories, nouvelle machine à café, vous êtes présent au Festival de Cannes 2022, etc. Quand est-ce que vous allez vous servir, on va dire, de leur notoriété, de leur influence pour, on va dire, le côté sustainable, sur le côté recyclable, sur le développement durable, peut-être sur le café bio ?
On le fait déjà. On le fait déjà.
Dites-nous donc, tout, alors j'ai pas dit
de manière évidente, pas suffisamment, parce que tout le monde ne le voit pas.
Chiara ne le fait pas, en tout cas.
Si, Chiara, si vous regardez son feed Insta, sur Instagram, il y a effectivement un support et un push sur la partie recyclable avec le sac de recyclage. On a aussi Camille Cotin, vous en avez parlé dans la dernière campagne, qui incite en dernière image les consommateurs d'espresso à recycler. On a une campagne dédiée pour la journée du café au mois d'octobre dernier, où Georges Clounet a fait vraiment mis en valeur les efforts qui avaient été faits, les efforts qui devaient continuer d'être fait pour effectivement cette filière du café. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on sait que communiquer sur le recyclage est essentiel, mais pas que sur le recyclage. Et c'est ça qui est important parce que le recyclage finalement, quand on prend le cycle de vie d'une capsule, la partie fin de vie, emballage, c'est 20%. Le reste, c'est-à-dire qu'on parle du café vert et on parle de l'utilisation, type de machine, électricité consommée, eau consommée, etc., représente entre 75 et 80%. Donc notre focus est évident, il est sur cette partie-là et c'est là où on a le plus gros impact.
Pour terminer cette première partie, j'ai une question que je poserai à vous deux. Anne Caron, quel est l'avenir justement de l'usage du café ? Je pense que c'est une bonne question parce qu'on reçoit beaucoup dans cette émission des start-up, chacun a son propre business model. Mais selon vous, Anne Caron, c'est quoi l'usage du café ? L'avenir de l'usage du café ?
Pour moi, l'avenir du café, ça passe déjà par le consommateur qui devient de plus en plus un consommateur qui choisit. Ça ne sera plus un café subi, mais un café choisi. Et ça passe par la qualité du café, ça sera un café qui éveille les papilles, un café qui est bon, un café qui respecte les hommes et les femmes qui vivent de la filière et un café...
Donc avec des labels, le commerce équitable, du fair trade, etc.
En fait, il n'y a pas que des labels pour faire des bonnes choses. Il y a une démarche globale. Et respecter l'ensemble de la filière, c'est aussi un enjeu qu'on doit assurer au quotidien, vous et moi.
Guillaume Chéneau.
J'ai pas grand chose à ajouter, je pense que tout a été dit. Et je pense qu'il y a de très belles histoires qui sont démontrées et la manière dont on peut faire ça extrêmement bien. Je prends un petit exemple qui s'appelle le programme Reviving Origins chez Nespresso, dans lequel on fait revivre des communautés entières de café. J'y étais moi-même au Zimbabwe en 2019 pour voir ce qui s'est passé et
quand
voir comment
dis,
on l'a fait.
Quand vous dites, on a très peu de temps, mais c'est-à-dire c'est l'accès à l'eau potable, c'est l'éducation pour les enfants.
Alors c'est tout, c'est apprendre les caféiculteurs locaux à faire du meilleur café en plus grosse quantité.
C'est quoi du meilleur café pour vous?
Alors du meilleur café, c'est du café de qualité qu'on peut vendre à un prix premium. Et ce café, les clients d'Espresso le demandent. Ils demandent des cafés uniques. Donc on se retrouve vraiment d'une manière très simple avec une relation gagnante-gagnante. Nos clients d'Espresso qui bénéficient d'un café unique et des caféiculteurs dans des pays en difficulté qui bénéficient de ce type de revenus.
Merci beaucoup à vous deux. Il est temps de passer au débrief de la semaine.
BFM Business. Objectif, raison d'être. Le débrief.
Et nous accueillons cette semaine sur ce plateau, en tant que débriefeuse de la semaine, la directrice générale de Planète Urgence, Amandine Hersant. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, qu'avez-vous pensé, on va dire, de cette... On n'a pas eu le temps de beaucoup aborder tous les angles, mais en tout cas, ce que vous avez entendu de la part de Nespresso, puis ensuite vos deux questions pour Guillaume Chéneau.
Eh bien, moi, je vois un secteur qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer très, très fortement. Et vous êtes tous les deux les exemples. Je vois Nespresso qui s'engage sur B Corp, qui est SBTI, qui fait un gros travail sur son approvisionnement, qui a envie d'aller plus loin sur le sujet des capsules. Je me pose par contre des questions sur si on se projette vraiment dans le monde de demain, sur la pertinence de ce modèle de capsule, la pertinence de ce modèle de machine. On sait qu'on a besoin de produits de plus en plus locaux. On a besoin d'approvisionnement extrêmement local. On a besoin de réduire la logistique, réduire le packaging. Et aujourd'hui, on voit des cafés qui font Brésil, Suisse, Brésil. On voit des capsules qui sont toujours très importantes et il reste une partie qui n'est pas recyclée. Du coup, en tant que DG, c'est quoi pour vous le modèle de demain? Vers quoi vous avez envie d'emmener Nespresso pour être cohérent avec le monde?
Alors, je pense qu'on est cohérent avec le monde. Les cafés Nespresso et les cafés en général sont produits dans des pays qui sont bien entendu loin de l'Europe. C'est quelque chose qui est incontournable, un peu comme le cacao ou d'autres matières premières finalement. Donc cet acheminement de du Brésil par exemple vers la Suisse est important et ça fait partie des points sur lesquels on travaille. On a parlé de consommation de précision. Je pense que c'est cet angle qu'il faut tenir compte. Une tasse de café Nespresso fait partie des moyens tout à fait écologiques de consommer du café. Après le traitement, et j'ai parlé un peu tout à l'heure de la chaîne de valeur, de l'impact carbone, et ce qui concerne les 20% restants, à savoir la deuxième vie, la seconde vie d'une capsule et l'emballage lui-même, finalement, sont une partie infime. Donc le traitement, bien entendu, c'est notre priorité de cette partie-là, pour diminuer cette chaîne de valeur. Mais l'impact le plus important, c'est dans les fermes. L'impact le plus important, c'est la manière de consommer. Ces machines auxquelles vous faisiez référence, en fait, votre référence, sont des machines qui font partie des machines les plus écologiques. Une machine espresso s'arrête automatiquement, consomme une quantité électrique infime et la quantité d'eau juste limitée pour pouvoir consommer et faire une bonne tasse de café à la maison. Donc, statistiquement et factuellement, cette machine espresso fait partie des meilleures machines sur le marché aujourd'hui.
J'ai une deuxième question qui concerne le sujet du carbone et du climat. Vous avez été attaqué dernièrement par Cash Investigation, puisque la compensation carbone est de plus en plus décriée, et globalement, hein, c'est Nespresso, mais c'est beaucoup d'autres entreprises. On sait qu'on a une compensation qui fait un plus 1, moins 1 égale 0. Je suis net et donc je n'ai pas à me préoccuper de ma réduction potentiellement. Donc il y a un gros enjeu de d'abord réduire, et Planète Urgence fait partie de tout un collectif avec la Net Zéro Initiative, beaucoup d'ONG qui militent pour passer sur de la contribution carbone. On va réduire ses émissions et après on va contribuer au maximum de ce qu'on peut, aussi en dehors de sa chaîne de valeur, pour être en capacité de contribuer sur les enjeux mondiaux du carbone. Vous en êtes où sur cette thématique?
Alors, Cash Investigation, juste pour ce point très rapide, c'était une pointée du doigt, de manière très juste, certains gaps potentiels sur un partenaire avec qui nous travaillons. Depuis, nous avons lancé un audit interne et externe pour vérifier effectivement si ces allégations tiennent la route ou pas. Donc, on regarde ça très au sérieux, on prend ça très au sérieux, bien naturellement. Après, pour tout ce qui est de la compensation carbone, ça fait partie des routes pour lesquels nous avons commencé à travailler. Notre objectif n'a jamais changé depuis 20 ans, c'est la réduction. En l'espace entre 2009 et 2020, nous avons rendu de 24% notre production de carbone par tasse de café. Donc c'est bien entendu quelque chose que nous prenons très au sérieux. Ça reste de très très loin l'ambition primaire, avec l'ambition des agréments de Paris de passer à net zéro en 2050 et si possible, le plus rapidement possible, d'ici 2035. Donc notre ambition et volonté n'a jamais était de faire un plus un moins un d'un côté. Bien entendu, c'était plus la volonté de maximiser l'impact au plus court terme, tout en travaillant sur la réduction de l'impact carbone et décarboniser, bien entendu.
Je pense qu'il y a un vrai enjeu de communication, effectivement, et de comment est-ce qu'on chaque entreprise a en capacité d'avoir la juste mesure sur sa contribution à la neutralité mondiale.
C'est ça. Et ce que je disais tout à l'heure, juste avant qu'on rentre dans le plateau, on apprend tous en marchant aujourd'hui. On est tous en train de comprendre comment on peut faire, comment on peut avoir le meilleur impact. Moi, mon ambition, ma vision, c'est d'avoir ce soudain objectif très ambitieux, justement, et de travailler et d'apprendre pour avoir le plus d'impact.
Et de sensibiliser vos égéries, vos ambassadeurs.
Par la même occasion.
Merci infiniment Amandine Hersant pour ce débrief de la semaine. Il est temps de passer maintenant à vos questions avec les questions des internautes.
BFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
Et comme chaque semaine, on accueille ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch pour les questions des internautes.
Et on va commencer avec Franck N, je précise parce qu'il y a deux Francs aujourd'hui. Pourquoi ne pas collaborer ou établir des partenariats avec des boîtes innovantes comme CapsMe, qui sont des capsules réutilisables?
Ah, écoutez, le point sur les capsules réutilisables, j'ai dit tout à l'heure, l'idée d'une capsule Nespresso, c'est qu'elle soit sans oxygène, donc le café ne peut pas être oxydé. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on ne collaborera pas avec Capsmi. Par contre, on fait énormément de collaborations. On a des collaborations avec des entreprises comme Café Joyeux, qui promeut l'inclusion et la diversité. On fait énormément de collaborations tous les ans au travers Nespresso quand ça nous semble adéquat.
On continue avec Laurent.
On doit contextualiser un petit peu. À l'heure où les tensions sont énormes en Europe de l'Est pour le contrôle des mines, mais aussi partout dans le monde à cause d'une demande toujours plus forte, pensez-vous utiliser autre chose que de l'aluminium pour fabriquer vos capsules éphémères? Il précise qu'en 2018, la production mondiale d'aluminium représente 2,05 tonnes par seconde, soit 64 millions de tonnes par an. Au rythme de la consommation actuelle d'aluminium, les stocks de bauxite, dont l'aluminium est extrait, risquent de s'épuiser d'ici un siècle. Les Français utilisent plus de 20 kilos d'aluminium par an.
C'est de la précision.
Ma réponse ne sera pas aussi précise. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la manière dont sont fabriquées nos capsules, elles sont faites avec 80% d'aluminium déjà recyclé. En fait, donc on n'utilise pas d'aluminium, on en utilise très peu et de moins en moins. Notre volonté, c'est bien entendu la circularité, donc utiliser l'aluminium. Pourquoi l'aluminium aujourd'hui? Parce que c'est ce qui permet d'avoir la meilleure barrière et la meilleure protection du café. Alors on cherche des possibilités. On a parlé du compostable à la maison que nous avons lancé, donc avec l'ambition, bien entendu, d'augmenter cette partie contre l'aluminium.
D'ailleurs, sur vos 80 marchés, dans combien de marchés vous allez l'utiliser, enfin la lancer, cette capsule compostable à domicile?
Compostable à domicile, on est très chanceux. La France et la Suisse sont les deux marchés de lancement et ça se passe au printemps 2023.
On poursuit avec Héloïse. Nespresso vient d'être pointé du doigt par Cache Investigation. Qu'aimeriez-vous leur répondre?
Ah, écoutez, j'ai déjà répondu.
Mais là, de manière globale, c'est comme si on vous donnait le droit de réponse en disant voilà.
Ouais. Alors écoutez, pour moi, effectivement, je suis ravi d'avoir les médias qui s'intéressent à ce qu'on fait et comment ils le font. Donc s'ils auront fait remonter quelque chose qui est effectivement un challenge pour Nespresso ou pour un partenaire avec qui on travaille, avec qui on s'engage, ce qui a été le cas cette fois-ci, nous regardons de détail, c'était il y a une semaine et demie, donc on se laisse le temps de regarder et d'être juste dans notre vue. On prend les choses très au sérieux, on a un audit interne et externe pour pouvoir vérifier tout ça.
Et si ça s'approuve, dans ces cas-là, vous allez changer de fournisseur, c'est ça?
Écoutez, on va voir, on prendra les mesures en conséquence. Ouais.
On continue.
Franck R, cette fois-ci, pensez-vous mettre un QR code sur le packaging de vos dosettes Nespresso pour faciliter et présenter vos valeurs éco-responsables et empreinte carbone à vos consommateurs?
Alors, c'est une excellente idée. On a beaucoup de QR codes chez Nespresso. Il y en a en boutique, il y en a sur website, il y en a partout. Effectivement, pas sur les étuis. Et j'ajoute qu'on peut tracer, plus de 80% de nos cafés sont traçables jusqu'à la ferme. Donc, en fait, on a vraiment la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans notre démarche et d'expliquer ce que Nespresso fait au jour le jour.
Donc, c'est envisageable.
Oui, pourquoi pas.
Et puis on termine avec Sébastien. Serait-il possible un jour de voir des personnes en situation de handicap dans vos stores? Chose réussie avec succès chez Café Joyeux, par exemple.
Alors c'est un peu l'ambition. Je ne vais pas parler trop vite, mais Yann Bucaille, Café Joyeux et nous sommes en discussion pour effectivement, je pense qu'il n'y a pas de secret. L'idée, ce n'est pas que Café Joyeux s'expande le nombre de cafés, c'est qu'ils arrivent à opérer une transition de personnes en situation de handicap dans le monde du travail en dehors de Café Joyeux. Et bien entendu, ça fait partie des idées sur lesquelles on échange régulièrement, pas plus tard que la semaine dernière, avec Yann.
Ce serait une logique, parce que comme vous avez commercialisé leur café, ce serait une logique.
Absolument, et puis on soutient, ça fait partie, on ne l'a pas fait pour l'argent, on l'a fait parce qu'on avait réellement envie de le faire. On reverse les bénéfices à Café Joyeux. Donc pour nous, c'était une cause vraiment extrêmement importante et on a envie d'aller beaucoup plus loin. Donc moi, je n'ai aucun souci et c'est quelque chose qu'on va faire demain, employer des personnes en situation de handicap qui passent d'un Café Joyeux à une boutique Nespresso ou ailleurs d'ailleurs.
Quel est le taux d'ailleurs de personnes en situation?
Oui, que vous employez-vous des personnes en situation de handicap en interne chez Nespresso? Si oui, est-ce que vous avez un taux?
Alors, chez Nestlé, c'est plus de 6%, 6,5% Nestlé France. D'accord. Chez Nespresso, c'est moins, mais on y travaille, bien entendu. On a un vrai challenge aujourd'hui. Nos métiers aujourd'hui sont des métiers qui sont complexes et qui permettent très, très peu, finalement, un transfert de personnes en situation de handicap. Mais on ne se satisfait pas de cette réponse. Donc, en fait, ça fait partie de mes chevaux de bataille et ça fait partie des choses grâce à Café Joyeux, mais pas que, d'ailleurs, sur lesquelles on travaille de manière très active.
Est-ce que vous avez un taux de parité?
Alors écoutez, taux de parité, oui, 60% des femmes de chez Nespresso sont des femmes, 60% niveau cadre et plus, et 50% dans mon comité de direction. J'espère que j'ai répondu à la question.
Oui, et j'ai envie de dire, même dans les pays d'origine, c'est souvent les femmes en plus qui sont dans les champs.
Effectivement, mais vous voyez, et Chiara Ferragni, du coup, fait partie des ambassadeurs aujourd'hui qui poussent terriblement bien ce message de féminisme et d'empowerment. Et elle a porté ce message très très fortement pour Nespresso, justement.
Et puis, dernière question de Sébastien. Avez-vous mis en place des solutions sociales pour vos récoltants, justement, dans les pays d'origine, sachant que vous en avez 18 ?
Oui, alors on a bien entendu le programme triple A qui est un programme très large. J'encourage ce monsieur à aller sur notre site internet et découvrir les détails. Il a été créé il y a plus de 20 ans et c'est effectivement ce programme qui s'occupe des collaborateurs et des 140 000 fermiers. On en a 140 000 avec qui on travaille depuis plus de 20 ans et on les porte près de notre cœur bien entendu. C'est quelque chose qu'on fait le mieux possible.
Merci.
Eh bien, écoutez, merci infiniment à tous pour cette émission. Merci infiniment ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch, notre débriefeuse de la semaine Amandine Hersant, Anne Caron pour notre challengeuse de la semaine et puis bien évidemment Guillaume Chéneau pour avoir répondu à toutes nos questions durant cette émission. J'espère que cette émission vous a plu, elle était riche et très intéressante. Merci à vous tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
BFM Business, objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.